RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous. La crise des gilets jaunes avait fait ressortir entre autres combien l'information était décriée par ceux qui s'estiment les victimes d'une élite formée d'une alliance supposée entre journalistes, politiques et financiers. Par conséquent, en raison de cette défiance, les citoyens qui se détournent des nouvelles augmentent. C'est ce que confirme le 33e baromètre de confiance dans les médias réalisé par Kantar pour le journal La Croix. 41% des personnes interrogées disent ne s'intéresser qu'assez faiblement à l'information, soit une hausse de 8 points en un an. Derrière cette désaffection, il y a une demande en creux de plus de responsabilité des journalistes et des médias qu'ils représentent. À l'anecdotique, les citoyens demandent du décryptage, aux petites phrases, ils préfèrent l'analyse, à l'infodivertissement. La majorité d'entre nous souhaite entrer davantage dans la complexité des enjeux économiques, sociaux, politiques qui se posent en France et à l'international. Si la prise de conscience a déjà commencé, il est désormais grand temps de passer aux actes, sinon c'est notre démocratie qui court le risque de s'essouffler.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Guillaume Goubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du journal La Croix qui a publié, comme chaque année, le baromètre de confiance dans les médias. Nous y reviendrons largement dans cette émission. Jacques Duplessis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, membre du collectif de presse Extramuros. Vous venez de réaliser, avec deux autres journalistes membres du collectif, un documentaire diffusé, entre autres, sur reflet.info, Radar, la machine à cash. Olivier Goujon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, photoreporter, auteur. Votre dernier livre est une enquête sur les difficultés rencontrées par les journalistes en France, sur la précarité dans la presse. Ça s'appelle « C'est con de journaliste » et c'est publié aux éditions Max Milo. Vos commentaires et questions sont attendus comme chaque jour dans le temps de le dire. Dites-nous si vous avez confiance ou non dans les médias, ce que vous attendez d'une information de qualité en appelant dès maintenant le standard ou en nous écrivant letempsdeledire@rcf.fr.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
Guillaume Goubert, comment expliquer, alors il y a plein de facteurs, on va en donner quelques-uns, comment expliquer que selon ce sondage, de plus en plus de Français s'éloignent de l'information, boudent l'information en quelque sorte?
Alors la question, c'est l'intérêt porté à l'actualité, ce qui n'est pas tout à fait synonyme de l'intérêt porté à l'information. La nouveauté majeure des résultats de cette année, puisque ce baromètre existe depuis 33 ans, c'est un décrochage assez net de l'intérêt porté à l'actualité, qui recule de 8 points, qui était à son plus bas niveau depuis la création de ce baromètre en 1987. Et quand on regarde les courbes entre ceux qui ont un très grand ou assez grand intérêt pour l'actualité et ceux qui ont un intérêt assez faible ou très faible, on voit que les courbes pourraient se croiser si on continue sur la même tendance. Car malgré tout, ceux qui ont de l'intérêt sont encore majoritaires. Alors, quel est le problème? Je crois que notre profession doit s'interroger sur la question de savoir si l'actualité qu'il propose est de nature à répondre aux attentes du public. L'actualité, ça n'est pas une sorte de, comment dire, d'absolu indiscutable. Je veux dire, il y a les sujets qui sont mis en avant par rapport à d'autres. Pour prendre un exemple très concret, ce matin, je regardais les nouvelles sur un grand site Internet et je faisais dérouler les choses et tout d'un coup, j'ai sursauté en disant « Ah, une bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle, à mes yeux, c'est le résultat des élections en Émilie-Romagne en Italie. Et on voit bien que le fonctionnement naturel, non réfléchi, je dirais, du système d'information conduit plutôt à mettre en avant des nouvelles préoccupantes, génératrices d'anxiété, on le voit bien ces jours-ci avec le coronavirus. Et peut-être c'est cela que le public nous dit ne plus très bien supporter, en avoir assez, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire, Jacques Duplessis, que ce désintérêt, en fait, il est lié au contenu qui perdent en qualité et en crédibilité?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, je pense que un des premiers points, c'est le désintérêt, c'est peut-être aussi la marque d'une certaine impuissance. C'est que je reçois un flux d'informations et au final, est-ce que j'ai prise sur ce réel ? Et ça, moi, ça m'interroge parce que je me dis que cette crise par rapport à l'intérêt de l'actualité, est-ce qu'il n'y a pas derrière plus profondément une sorte d'impuissance, une sorte de colère qui monte. Et on voit, moi je fréquente pas mal les manifestations pour les couvrir. J'ai couvert des gilets jaunes, j'ai couvert les manifestations retraite contre le projet de la retraite, des réformes. Eh bien, on voit que une colère qui monte parce qu'il y a une sorte d'impuissance. On se heurte à des murs. Voilà. On se heurte à des murs, on a l'impression de ne pas être entendu. Et donc, en fait, les médias ne sont le relais que de choses sur lesquelles je n'ai pas prise. Voilà. Et derrière, il y a pour moi cette crise de, une crise de la démocratie. Je pense que c'est un des... Derrière, c'est symptomatique. Je pense plutôt aussi de ça, quoi.
Mmh. Olivier Goujon, vous, quelle est votre analyse sur ce désintérêt grandissant des Français vis-à-vis de l'actualité ?
Alors, écoutez, d'abord, juste un mot très rapide pour dire à M. Goubert que la défaite de Salvini en Émilie-Romagne, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'en fait, il progresse énormément dans une terre qui est de tradition de gauche. Donc, en fait, bon, ce serait à analyser...
Alors, je précise que... vous êtes en ce moment en Italie, hein. Vous vivez une partie du temps en Italie, c'est pour ça que vous connaissez bien aussi ce pays.
Voilà, c'est ça. Moi aussi, hein, je suis content qu'il soit battu, mais enfin, voilà, la bonne nouvelle, c'est à relativiser. Effectivement, je crois, en fait, est-ce qu'il y a un désintérêt pour l'actualité ou un désintérêt pour l'information ? C'est deux choses différentes. Il y a un désintérêt pour l'actualité parce qu'effectivement, je pense que les Français se sentent déconnectés de cette actualité et ils sentent que ils ont peu de prise dessus. Je pense pas du tout qu'il s'agisse d'un rapport à l'anxiété et qu'ils attendent des bonnes nouvelles, par exemple. Ça, pas du tout. On est parfaitement capable d'entendre des mauvaises nouvelles. C'est surtout que ils veulent pas d'une... Enfin, je veux dire, ils refusent cette actualité qu'on leur propose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour l'information. Les Français restent l'un des peuples les plus politiques au monde. Et le mouvement des Gilets jaunes, la colère qui s'exprime un peu partout, le démontre encore une fois. Donc, il s'agit plus d'une crise de confiance que d'un décrochement par rapport à l'actualité ou à la hiérarchie de l'information qu'on leur propose.
En fait, cette crise de confiance, Guillaume Goubert, elle est liée à ce qu'on propose de façon générale aux Français aujourd'hui concernant l'actualité. C'est souvent une actualité considéré comme instantané, un flot qui privilégie finalement une info divertissante plutôt qu'une information solide et vérifiée. C'est cela qui constitue la crise quand même.
Pas seulement, mais c'est certainement un des aspects. Je pense qu'il y a un problème de... j'ai parlé de l'anxiété, c'est un des facteurs. Il y en a d'autres. Je pense que la quantité est également une question à se poser. C'est-à-dire que on a forgé ce mot ces dernières années qui est l'infobésité. D'une certaine façon, l'offre sans doute excède la demande. Et le fait que les canaux d'information se soient multipliés d'une manière assez inouïe depuis une quinzaine d'années fait que les Français peuvent avoir le sentiment d'être bombardés en permanence d'informations, d'opinions via les médias, je dirais institués, mais également via les réseaux sociaux, et donc une espèce de réaction de saturation. Mmh. Ça, c'est un deuxième aspect. Sur l'aspect de la confiance, effectivement, dans la mesure où on vit dans une société où la défiance est malheureusement très fortement à la hausse, le sentiment que les journalistes sont plus du côté des puissants que du côté du public contribue à effectivement à ce désamour et à cette défiance de la part du public vis-à-vis des médias.
Mais est-ce que ce sentiment, il n'est pas vérifié parfois quand même, Jacques Duplessis, c'est vrai que je le disais aussi en introduction, cette association entre journalisme, puissance financière et puissance politique.
Ah bah tout à fait, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qui possède les médias. Voilà, et aujourd'hui, donc quand on voit dans le sondage la question par rapport à l'indépendance des journalistes, 68% des gens pensent que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique et des pouvoirs en général. Et 61% que les journalistes ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir de l'argent. Alors, ça ne m'étonne pas, j'allais dire, parce que ça ne m'étonne pas pour plusieurs raisons. Et il y a une part de vérité. C'est déjà qui possède les médias. Donc, il y a des médias sur lesquels on ne peut pas enquêter sur certains sujets. Moi, je fais beaucoup d'investigations. Je vais raconter du concret pour dire que nous-mêmes, journalistes, on y est confrontés. Moi, je suis journaliste indépendant, donc je suis en contact avec plein de rédactions. Un exemple, un jour, j'ai une histoire de comment la France a vendu des armes à la fois à Kadhafi et ensuite aux rebelles contre Kadhafi. Je vais le proposer à un grand magazine. Et là, on me répond, écoute, Jacques, ton sujet, il est intéressant, c'est bien, mais écoute, pas chez nous. Pas chez nous parce que avec notre actionnaire, ça va tiquer. Et donc, on va avoir des problèmes pour le passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le Canard enchaîné et ça a été sorti dans la semaine. Un autre exemple, par rapport aussi aux connexions politiques. Et là c'est public, donc je vais pouvoir nommer le journal. C'est avec le magazine Le Point. Le service enquête du Point reçoit des informations sur une affaire libyenne de corruption liée encore à Sarkozy et tout ça. Et donc, ils me disent, bah, tiens, nous, on n'a pas le temps. Est-ce que ça t'intéresse d'y bosser? Je travaille, on sort l'enquête avec un collègue. Donc on s'aperçoit que c'est intéressant, il y a matière. Notre enquête, elle a été reprise après par le Parquet National Financier, donc il y a matière à enquêter. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On écrit l'article, on a les photos, on le met en phage, on fait la maquette. Mmh. Et au dernier moment, on m'appelle, on me dit, bah non Jacques, écoute, ton article, il sortira pas. Parce que une des sociétés mises en cause avait écrit à quelqu'un du conseil d'administration du Point, et ensuite, ils ont bloqué l'article à cause de ça pour pas déplaire. Oui. Donc il y a une part de réalité, c'est pas qu'un fantasme.
Je crois que vous avez des exemples aussi à nous donner, Olivier Goujon, vous le racontez dans votre livre. On peut parfois commander un papier, un reportage sur des zones de guerre, hein, j'allais dire, des zones difficiles, et au dernier moment, le commanditaire du papier se dédie.
Oui, c'est-à-dire que très vite sur l'infobésité, sur l'idée que on a plus d'infos qu'avant, il y a surtout, à mon sens, une massification de l'information. Mais en même temps, on assiste à une forme de standardisation, c'est-à-dire que on est assailli d'informations, ça c'est vrai, mais c'est souvent la même. Et c'est lié directement à la baisse des effectifs. J'explique dans mon livre comment il y a un rapport mathématique, en me basant sur les calculs de Julia Cagé, il existe un rapport mathématique entre la présence d'un journaliste supplémentaire dans une rédaction et la production d'informations originales. Donc, sur qui possède les médias, on pourrait, écoutez, en deux mots, on pourrait même dire que, on pourrait partir du principe que, vu qu'il y a toujours eu de l'argent et des patrons dans la presse, on pourrait dire, bon ben, finalement, ça change pas. Mais la réalité, c'est que même s'il y avait, même si ces patrons-là, ces 9 ou 10 milliardaires qui possèdent la presse, étaient vertueux, ce que je ne crois pas, hein. Ils ont des intérêts, du prestige, des marchés d'État, tout ça. Mais même s'ils étaient vertueux, ça créerait naturellement de la défiance dans l'opinion publique. Mmh. La dernière chose, c'est sur l'autocensure. Je voudrais un peu rebondir sur ce que dit Jacques, parce que effectivement, en fait, la fragilisation globale du métier fait que en bas, dans les rédactions, on hésite à proposer des sujets un peu difficiles. Et puis les rédacteurs en chef ne sont plus l'interface rugueuse qu'ils étaient encore il y a quelques années, entre des actionnaires à qui ils pourraient résister et des rédactions qu'ils doivent protéger. Donc cette autocensure qui fait que ces centres de décision ont intégré les limites à ne pas dépasser, si vous voulez, c'est très dommageable pour la qualité de l'information. Ça renvoie également à la reproduction sociale et à une frilosité générale du secteur.
Alors, Guillaume Goubert, je vais vous laisser la parole. Juste après cette pause musicale, vous nous parlerez de la manière dont, notamment au journal La Croix, et vous travaillez sur cette question d'indépendance à travers un certain nombre de dispositifs. Nous en parlerons donc dans 2 minutes. N'hésitez pas à prendre la parole, 04 72 38 20 23, le temps de le dire, @rcf.fr.
Every day I told you when you're lonely, yeah, yeah. You see you thinking on me, but you don't even know nothing about me, yeah, yeah. You see my thick thighs, that's when you look into my brown eyes. See my little ways commit your switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, moan, just go, just beat you in half with my heart. I just wanna love and you, trust and you, honor you. Please do the same on your part. Be honest, you want this, but I can be heartless regardless of my conscience. upset, I'm never see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but you can never see eye. I can point a gun, but you know I can never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put down my life one time. No cap, big vibes, throw that. Get feels, get high. If you made your bed, then you can lie. Just please don't waste my time, be honest. You want this, but I can be heartless. Regardless of my conscience, be honest. You want this, but I can be heartless. Regardless of my conscience.
People, they talk their majesty about the way your body twisting. Make me lose control in a distinct world. And it's all because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby no day to me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you no do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be honest.
Be honest. Yeah, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. No, be honest.
Be honest,
you be honest. C'était Georgia Smith avec Burna Boy sur RCF.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Depuis 9h ce matin, dans le temps de le dire, nous essayons de comprendre les raisons du recul de l'intérêt d'un nombre grandissant de citoyens pour l'actualité, tel que nous en rend compte le dernier baromètre de confiance dans les médias qui a été publié récemment dans le journal La Croix. Son directeur Guillaume Goubert est avec nous ce matin, tout comme le journaliste indépendant Jacques Duplessis et le journaliste photoreporter Olivier Goujon, auteur d'une enquête intitulée « Ces cons de journalistes » publiée aux éditions Max Milo. En ligne depuis Clermont-Ferrand, j'accueille Annie. Annie, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Annie.
Voilà, moi je suis sur un thème qui me convient beaucoup, parce que je trouve que c'est le sel de la vie de tous les jours. Et mais par contre, je dirais que les journalistes donnent le plus souvent leurs propres opinions, hein, ce qui n'a rien à voir avec l'info, qui demande une certaine éthique et vérité. Souvent même, ils ont choisi un terrain qui semble parti pris, d'où l'info est tronquée, voire faussée. Depuis quand les infos sont-elles dirigées ?
Merci beaucoup, Annie, pour cette intervention. Guillaume Goubert, les journalistes ont trop tendance à donner leur opinion plutôt qu'à délivrer une information digne de ce nom.
Non, je suis pas d'accord. Globalement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que, alors évidemment, moi, je juge beaucoup en rapport avec La Croix, mais où on essaie vraiment de distinguer très clairement l'information et le commentaire. Il y a des commentaires, il y a des éditoriaux, il y a des chroniqueurs, certains assez virulents, mais il faut, quand il s'agit d'information, on essaie d'être les plus loyaux possibles. Et alors, bien sûr, l'objectivité dont on parlait beaucoup autrefois est un peu illusoire, parce que on n'a jamais tous les éléments en main pour juger d'une situation. Mais il faut essayer de s'approcher de la vérité des faits. Et sincèrement, je pense que beaucoup de journalistes en France font ce travail de manière tout à fait consciencieuse. J'ai pas le sentiment qu'il y ait tellement d'opinions qui s'expriment dans les reportages ou dans les sujets. Alors on peut contester les angles qui sont choisis, dire que le fait de mettre l'accent sur la violence des manifestations des Gilets jaunes est une forme d'opinion. En l'occurrence, c'est vrai que c'est critiquable, mais je ne crois pas que ce soit une question d'opinion. C'est plutôt une question de spectacle. C'est-à-dire que c'est plus spectaculaire à l'écran de montrer des affrontements entre la police et les manifestants que de faire parler des personnes sur les ronds-points. Mais je pense pas que la question de l'opinion soit le principal problème de la profession aujourd'hui.
Olivier Goujon, vous en pensez quoi ? Vous pensez pas tout de même qu'il y a une inflation de j'allais dire des éditorialistes dans nos chaînes d'information, notamment chaînes d'information continue, et qui peuvent prendre le pas sur une information qui serait basée sur les faits, rien que les faits ?
Non, je suis plutôt d'accord avec avec M. Goubert, c'est-à-dire que en fait l'objectivité ça n'existe pas. Hein, on peut dire ça à cette auditrice déjà. L'objectivité ça n'existe pas. Ce qui existe et ce qui doit être moteur, c'est l'honnêteté et la vérité. Ça, ça existe et ça doit être évidemment moteur. Ça renvoie à l'idée un peu antistructuraliste de d'où on parle, quoi, en fait. C'est la seule chose à considérer. Si je vais au média, je sais d'où parle le média. Si je vais à RT, je sais d'où parle RT. Voilà, l'idée, c'est l'honnêteté, la vérité, et savoir d'où parle le média qui vous parle. Parfois, dans un contexte de mainmise néolibérale sur la presse, ça devient beaucoup plus difficile de savoir d'où parle. Ça renvoie à ce que disait Jacques tout à l'heure, hein, Jacques Duplessis, sur la difficulté de placer ces sujets. Ça devient beaucoup plus difficile de savoir quels sont les intérêts stratégiques, voire idéologiques, du point de l'Obs ou de l'Express. La deuxième idée que je voudrais exprimer, quand même, pour répondre à cette dame, c'est sur l'idée... Alors, évidemment, ça renvoie pas à la subjectivité, mais il y a quand même, en France, la mainmise d'une hypercaste de quelques dizaines à peine de commentateurs et d'éditorialistes qui maîtrisent le commentaire sur la plupart des médias où se forme la majorité de l'opinion publique, c'est-à-dire la télévision, très clairement. Et ça explique, par exemple, qu'on met plus d'un an à renverser la vapeur sur l'idée des violences policières, alors qu'on savait, dans les manifestations des Gilets jaunes, par exemple, alors qu'on savait ça. Moi, je l'ai dit sur un plateau en décembre 2018, et j'avais contre moi très clairement l'establishment.
Oui.
Donc voilà, mais les deux idées que je voulais exprimer.
Alors,
sur le sujet.
Effectivement, il y a des leaders d'opinion qui existent, mais ça n'empêche pas aux citoyens de penser. Jacques Duplessis.
Oui, enfin, moi, pour revenir à ce que disait l'auditrice, je voudrais apporter un bémol à ce qui a été dit. Oui, je pense que la grande majorité des journalistes font bien leur boulot, essayent de faire bien leur boulot, ils ne sont pas d'abord là pour donner des opinions. Mais il y a le ressenti. Et le ressenti, moi, je pense qu'il est important à cause de cet écrasement d'éditorialistes dans les télés, dans les radios, ces grandes voix, des gens qui ont 75, 80 ans, qui ne lâchent pas la place. Il faut être clair, c'est ça. C'est ces gens-là qui devraient être retraités. Ils ne laissent pas la place, ils viennent avec un savoir surplombant, nous dire ce qu'il faut penser, nous dire... Voilà, et ils sont effectivement cet establishment qui n'arrive pas à partir.
Ils s'ennuient peut-être.
Oui, c'est ça, ils s'ennuient, mais bon, on peut se créer un code de bridge, on pourrait créer... voilà, mais ça, je crois que ça, c'est un vrai problème. Et le deuxième... J'ai
oui,
un deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les journalistes aussi sont des relais. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours producteur d'informations de première main. Quand on va en reportage... On va voir quelque chose. On va voir quelque chose d'inédit. Quand on va faire de l'investigation, on crée l'information avec de l'inédit, qu'on va vérifier, qu'on va voir. Quand on va à une conférence de presse et qu'on relaie une conférence de presse, on ne crée pas d'inédit. On tend le micro ou on prête sa plume à des gens qui vont nous dire des choses. Et à la fin, on va signer l'article. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fake news, elles sont jusqu'au gouvernement. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que quand, en fait, ils n'hésitent pas. Des gens n'hésitent pas à mentir. Bon, on le voit à la réforme des retraites. On ment au Parlement. Il y a un avis du Conseil d'État qui dit que le projet de loi est dramatique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous, on relaye la communication gouvernementale et on signe en bas. Et du coup, ça crée cette impression qu'on est au service.
Oui, mais on relaye aussi le Conseil d'État, Jacques.
Oui, je veux dire, mais quand même.
Les deux points, enfin, comment dire, les deux points d'actualité sont, à mon avis, l'avis du Conseil d'État a eu un retentissement considérable.
Oui.
Personne n'a étouffé l'avis du Conseil d'État.
Non, on ne l'étouffe pas. Mais le problème, c'est qu'on a souvent ce sentiment, des fois, qu'on reçoit des éléments de langage et qu'on diffuse des éléments de langage, malgré nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps et ni les moyens de faire du contrôle de ce qui est.
Allez, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais j'aimerais accueillir maintenant Jean-Louis qui patiente depuis plusieurs minutes. Jean-Louis, vous nous appelez de Montpellier. Bonjour, soyez le bienvenu sur RCF en direct.
Voilà, je voudrais vous dire ma façon de penser de l'information. Je pense qu'actuellement, bien sûr, l'information n'est pas totalement libre, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en plus, elle est orientée vers la mauvaise nouvelle. Or, j'estime que dans la vie, il y a aussi de bonnes nouvelles. Et sur RCF, c'est important de dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Et la façon dont on a, bon, quand je me souviens des attentats en France, les informations qui passaient en boucle pour dire la même chose, c'était du rabâchage, c'était du bourrage de crâne, où on avait l'impression que c'était la fin du monde. D'ailleurs, la fin du monde, c'est un mot qu'on entend souvent actuellement. Or, j'estime que dans la vie, il y a aussi de bonnes nouvelles, il y a des choses positives qui se passent, et j'avais même écrit au médiateur de France 2 pour lui dire que je ne regardais plus la télévision parce que c'était des porteurs de mauvaises nouvelles. Or, je pense que la responsabilité des journalistes, c'est d'essayer de montrer le monde tel qu'il est. Je sais que c'est très difficile, mais une des composantes, c'est qu'il y a aussi de bonnes nouvelles. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, ça revient à ce que vous disiez il y a quelques minutes, hein, Guillaume Goubert. Idée à laquelle, je crois, Olivier Goujon, vous résistez un peu.
Oui, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, c'est à nuancer, évidemment, mais je pense que c'est faux. En fait, cet auditeur, il dit deux choses. Il dit que, d'un côté, il y a trop de mauvaises nouvelles, et en fait, ce qu'il critique, c'est le rabâchage, c'est-à-dire la massification, c'est-à-dire la répétition ad vitam aeternam d'une nouvelle. Oui. Donc en fait, je vais prendre un exemple très précis. Le naufrage qu'a représenté la diffusion de l'information selon laquelle on avait retrouvé Dupont de Ligonnès. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça a été rabâché, on l'a entendu partout, tout le monde a fait sa ligne là-dessus, ça a été un naufrage total. À la finale, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait, la mauvaise nouvelle dans cette affaire, c'est que tout le monde s'est trompé.
Oui, alors justement là-dessus, Guillaume Goubert, parce que je crois que dans le sondage, on revient largement sur cette affaire du pont de Ligonnès, ça a contribué à décrédibiliser quand même beaucoup les médias cette année, Guillaume Goubert. Là, on est face à un exemple de suivisme malheureux.
Oui, tout à fait. Le fait nous a paru suffisamment curieux pour qu'on pose une question plus détaillée que sur d'autres thèmes en demandant à l'échantillon quelle était selon eux l'explication de cette énorme bévue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les options, les questions qu'on a... possibilité de choix qu'on a posé à l'échantillon, celui qui est arrivé largement en tête associe les journalistes à la police. C'est-à-dire que, bonne nouvelle pour le coup, le public est suffisamment lucide pour se rendre compte qu'il y a peut-être eu aussi un dysfonctionnement policier, que c'est pas juste les journalistes qui ont fait des bêtises. Moi, je trouve que c'est une affaire intéressante dans la mesure où, effectivement, ça pose les questions de massification, les questions de précipitation. C'est-à-dire qu'on prend quand même pas beaucoup le temps de réfléchir par rapport aux informations, la question des techniques de travail, c'est-à-dire que quand on entendait certains dire on a vérifié auprès de 5 sources, je ne doute pas une seconde de la vérité de ce propos, mais il est probable que les 5 sources en question avaient derrière une seule source eux-mêmes. Donc effectivement, si on appelle différents bureaux de la police qui tous ont eu la même info de la police écossaise qui est une info fausse, ça fait 5 sources, mais ça fait quand même 5 fois une mauvaise information. Ce que je trouve aussi qui est intéressant et finalement plutôt encourageant pour la suite, c'est que les médias ont été quand même extrêmement rapides pour corriger le tir et pas seulement corriger le tir, aussi reconnaître les erreurs de fonctionnement qui avaient pu se produire pour sur certains plans. Donc on peut penser que la leçon sera tirée et c'est peut-être en partie pour ça qu'effectivement je ne trouve pas que le jugement porté dans le sondage soit particulièrement sévère sur cette affaire précise.
Allez, on revient dans une petite minute avec vos contributions, comme celle de Pierre qui patiente depuis plusieurs minutes. N'hésitez pas, comme lui, à appeler le 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute.
Vague à l'âme, irritabilité, tristesse profonde, trouble du sommeil, est-ce une dépression? Comment discerner le normal du pathologique? Dans le coffret « Dépression, souffrance psychique, mieux comprendre pour s'en sortir », des spécialistes vous donnent des axes de réflexion et de compréhension sur ce sujet. Pour plus de renseignements et commander ce tout nouveau coffret « Dépression, souffrance psychique », appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Le récent mouvement des Gilets jaunes a révélé combien les fractures étaient profondes dans notre société. Parmi celles-ci sont apparus un écart profond entre les citoyens et les journalistes perçus comme les représentants d'une élite associée aux puissances politiques et financières. Comment enrayer cette crise de défiance vis-à-vis de l'actualité? Nous continuons de répondre à cette question avec mes invités. Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, qui a publié il y a quelques jours le baromètre 2020 de la confiance des Français dans les médias. Olivier Goujon, photoreporter, qui décrit la précarité du métier de journaliste dans son dernier livre « C'est con de journaliste » publié aux éditions Max Milo, et Jacques Duplessis, journaliste d'investigation qui vient de réaliser avec deux autres journalistes du collectif Extramuros un documentaire diffusé sur le site reflet.info « Radar, la machine à cash » depuis la Lozère. Pierre est avec nous, je crois, toujours en ligne. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour. Bravo pour votre émission. J'avoue que vous avez parlé d'impuissance, c'est le sentiment que j'ai. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'information, je ne parle pas de certains titres, hein, mais que la grande majorité d'informations, l'objectif, c'est de faire du business. C'est un produit. L'information est un produit. Aujourd'hui, on fait du business avec. Pour faire du business, il faut réduire les coûts, c'est-à-dire qu'on met de moins en moins de journalistes sur le terrain, parce que c'est là. La véritable information, c'est quand on va la chercher sur le terrain. Au lieu de ça, on a des experts en plateau qui blablatent à longueur de journée pour nous faire tourner en bourrique et finalement, on est complètement perdu. Donc, c'est là, l'information est un produit. Pour ce qui me concerne, là, c'est un cas particulier. Il se trouve que j'ai 80 ans, j'ai une DMLA, dégénérescence maculaire, c'est-à-dire que je ne peux plus lire. J'ai été abonné à La Croix pendant très longtemps, je ne suis plus abonné à quoi que ce soit. Donc, mes sources d'information actuellement, c'est La Voix. Et La Voix, c'est quoi? Pour faire court, c'est RCF, France Culture et des chaînes YouTube, dont une qui n'est pas connue et que dont je me permets de faire de la pub alors que j'ai aucun intérêt.
Alors que vous êtes anti-pub.
Alors que je suis anti-pub, tout à fait, bien sûr. C'est, oui, d'ailleurs, tiens, à propos de pub, tiens, excusez-moi, je suis sorti de cocolade, je propose que on légifère sur l'interdiction de la pub dans les boîtes à lettres, de façon à ce que on dise on ne met plus du tout de pub dans les boîtes à lettres, sauf les gens qui en veulent, auquel cas ils mettraient 8 pubs.
Allez, on donc, ferme la parenthèse.
Quand même, ça, c'est quand même, c'était une parenthèse. Mais ceci pour dire donc que moi, mes seules sources d'informations maintenant, c'est des gens un peu sérieux, et des gens sérieux, c'est RCF, la preuve, c'est que je vous appelle et je vous écoute, c'est France Culture, puis un peu France Inter aussi,
et la chaîne.
C'est-à-dire les chaînes publiques, et la chaîne Thinkerview.
Thinkerview, ah, c'est... Ça fait plaisir à Jacques Duplessis.
Oui, Think, ah bon, ah ben oui, qui est journaliste d'investigation.
Tout
comme
à fait.
Je le comprends.
Merci.
Et comme je comprends ces journalistes d'investigation qui veulent faire leur boulot et qui sont empêchés de faire leur boulot. C'est complètement scandaleux. Il y a un sujet, et puis je termine parce qu'on pourra en parler pendant des heures, un sujet, aujourd'hui on a une fabrication, on a une machine à fabriquer des inégalités dans le monde. C'est un scandale absolu. Et j'aimerais, moi, qu'on puisse décortiquer ce que j'appelle l'évasion fiscale. Je ne parle pas de l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. L'évasion fiscale, c'est la fraude, ça c'est OK. L'optimisation fiscale qui est légale, mais qui est complètement immorale. J'aimerais que quelqu'un me décortique comment ça marche. Et en particulier, il y a Gabriel Zatman, qui est professeur à Berkeley, qui prétend, lui, que chaque État peut agir. Hein.
Pierre.
J'ai découvert ça dernièrement et j'aimerais bien qu'on me décortique ce sujet qui, pour moi, est majeur.
Merci beaucoup, Pierre. Non, c'est très intéressant ce que vous nous avez dit, et notamment je retiens ceci, j'aimerais faire réagir Olivier Goujon à ce propos. Pierre nous a dit l'information est devenue un produit. Vous souscrivez à cette analyse, Olivier ?
100%. Enfin, 100% non, 99%, c'est-à-dire il a raison, il a dit aussi qu'il y avait il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais on peut dire que oui, la majorité de l'opinion publique se forme sur des médias qui sont ont des intérêts commerciaux, quoi. Enfin,
et comment dans votre métier, Olivier Goujon, vous le percevez, ce basculement, cette information qui deviendrait parfois un produit, ça se manifeste comment?
Monsieur Goubert a parlé tout à l'heure de d'infodivertissement. Moi, j'ai un chapitre qui est dédié à ça. Il faut bien comprendre déjà à la base que dans infodivertissement, le mot important, c'est pas information, c'est divertissement. Donc ça détermine déjà dans quel sens on va aller, quoi, si vous voulez. Comment je le perçois?
Moi, personnellement, dans l'exercice de mon métier, quand je faisais du reportage, ce qu'on appelle du reportage, je peux que redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on hésite à proposer des sujets dont on sait qu'ils vont être un petit peu difficiles, quoi, si vous voulez.
Et l'antidote à cela, Jacques Duplessis, est-ce que ce ne serait pas le développement du journalisme d'investigation?
Alors, je pense que le journalisme d'investigation, il y a une part de confiance qui, comment dire, les gens sont témoins là qu'on va vraiment chercher l'information, comme d'ailleurs ceux qui vont faire le reportage de guerre ou qui vont faire vraiment du reportage. C'est-à-dire, c'est ce que disait l'auditeur. L'auditeur disait, ce qui est intéressant, c'est quand les journalistes ils sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en première ligne et qu'ils sont vraiment producteurs d'informations et non pas perroquets de conférences de presse. Voilà. Et là, je crois que c'est là où c'est ça qui permet de retisser les liens. Après, il y a un problème. Comme il disait très bien, et il avait entièrement raison, cet auditeur, il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain pour des questions financières. Moi, je peux dire que ça me concerne. Par exemple, je devais faire un reportage au moment de la crise des Gilets jaunes pour un magazine. Il fallait que j'aille à Cahors. Vous voyez, c'est pas très, très loin, pas trop compliqué. Eh ben, on m'a dit oui, mais par rapport à la taille de l'article, qui va faire 3/4 de page, plus le photographe, parce qu'il faut une photo, ça fait 2 billets de train, même si j'avais trouvé quelqu'un pour me loger sur place. On m'a dit non, mais tu comprends, ça fait quand même 2 billets de train aller-retour pour Cahors. Et ils ont annulé l'article parce que ça faisait trop cher par rapport à la surface occupée dans le journal. Mmh. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Une radio publique, aujourd'hui, qui a été cité, a du mal à payer des billets d'avion et souvent, ils profitent de voyages de presse organisés par des agences de communication pour aller faire des reportages. Donc, en fait, comment on peut se sentir complètement libre et complètement indépendant quand le billet d'avion est payé par une agence de com?
Oui, donc ça, c'est des vraies questions. Il y a ce message de Ghislaine de Nancy. Je navigue entre RCF et l'antenne de France Inter, nous dit-elle. Il faudrait que les journalistes soient plus précis et plus dans la réalité des faits. Alors, Guillaume Goubert, comment à La Croix les journalistes sont au plus près du terrain? Est-ce que, au journal La Croix, vous développez justement ce domaine de l'investigation? Il y a des enquêtes, il me semble, de plus en plus. Alors, dans le journal.
Effectivement, nous avons essayé depuis 2 ans maintenant de ça avait même commencé un peu avant les Gilets jaunes, effectivement, de mettre des moyens sur la réalisation de sujets importants. Et effectivement, nous lançons dans la rédaction des appels d'offres, entre guillemets, pour demander aux journalistes quels sont les sujets sur lesquels ils aimeraient pouvoir travailler un peu longuement. Et effectivement, ça a donné des enquêtes assez mémorables dans le journal. La dernière en date est un gros dossier sur l'antisémitisme qui était vraiment d'une très très grande qualité d'investigation au sens d'aller rencontrer ceux qui réfléchissent sur ces questions. Également sur le terrain, bien sûr, mais je veux dire par là qu'il faut pas non plus... On parle beaucoup depuis tout à l'heure des plateaux avec des éditorialistes, etc. Certes, c'est extrêmement agaçant de regarder certaines chaînes, mais comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, il y a aussi France Culture, où il y a également des talk-shows, pour prendre le mot franglais, des émissions de débat, mais qui sont d'une très grande qualité, parce que on donne, d'abord, les invités sont choisis, ce sont beaucoup des universitaires, des académiques, qui ont travaillé longuement sur ces questions, et on leur donne du temps. On leur donne 40 minutes, une heure pour débattre. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est ça que je veux dire. Et pour prendre un média qui est plutôt célébré par tous ceux qui sont mécontents du système d'information actuel, qui est Mediapart, organise lui-même sur pas mal de débats vidéo avec également des personnalités. Voilà, donc il faut effectivement avoir en tête la qualité, avoir en tête le fait qu'il y a besoin de temps pour réaliser de bons sujets. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, avant l'été, pour préparer les débats de bioéthique, nous avons organisé une série d'entretiens croisés sur des différents aspects du projet de loi de bioéthique avec des personnes qui avaient des opinions très différentes. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment leurs opinions se confrontaient. Et j'ajouterais que la chose qui m'a fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est que plusieurs d'entre eux ont dit merci, on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, de discuter ensemble. C'est-à-dire des personnes qui travaillent sur les mêmes sujets, certes avec des points de vue très différents, voire carrément opposés. Mais pourquoi la discussion ne serait-elle pas possible? Tout ça, ça demande effectivement du temps, ça demande de la place, ça demande de l'argent, parce que il y a des frais. Mais ça en vaut la peine si on en juge par exemple, l'augmentation spectaculaire de l'audience de France Culture depuis un an et demi, ou le succès de Mediapart, et où nous, modestement, dans une moindre mesure, le fait que nous sommes bien présents dans un certain nombre de débats.
Et qui a été récompensé aussi, on peut le dire, sans faire de cocorico interne, mais le journal La Croix a été récompensé par un organisme.
Cette année, oui, le prix CB News du meilleur titre de presse, oui.
Alors Olivier Goujon, sur cette question de l'investigation, on peut le dire, il y a beaucoup de demandes des citoyens pour développer l'investigation, mais tout de même, on peut dire qu'il y a peu d'offres à cause justement des coûts que ça représente.
Oui, alors l'investigation et le terrain, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que l'investigation, ça renvoie au temps long. Typiquement, Jacques, qui pratique ce type de journalisme, sait bien de quoi je parle. Le terrain, ça peut être aussi, ce qu'a dit Jacques également tout à l'heure, prendre un billet de train pour Cahors et puis revenir le lendemain, ça c'est du terrain, et ça on fait plus, parce que effectivement, il y a plus de... Parce que un journaliste qui part en reportage, c'est un journaliste qui, au vu de l'analyse néolibérale de la conception des médias, c'est un journaliste qui n'est pas productif, il est en dehors. Alors qu'en fait, en théorie, il est productif, puisqu'il va chercher de l'information. Mais on a organisé le journalisme autour de journalistes postés, qui sont des espèces de matrices autour desquelles tournent des poules de pigistes précarisées, et toujours plus précarisées. Donc c'est cette organisation-là qu'il faut remettre en cause. Et ça, c'est des décisions politiques. Je voudrais dire également que le... Alors, pour parler de deux mots sur l'éditorialisation des médias, si vous voulez, typiquement, les débats de Mediapart et de France Culture n'ont absolument rien à voir avec avec la caste qui se partage quelques Marocains sur les chaînes d'info ou sur CNews et compagnie, quoi. Ça n'a rien à voir. On peut très bien avoir des débats d'opinion avec des gens qui vont aborder tous les problèmes et dans tous leurs aspects. Donc c'est pas tellement le sujet. Il faut, encore une fois, il faut des éditorialistes. Il faut juste, comme disait Jacques tout à l'heure, il faut juste qu'ils aient pas 90 ans, qu'ils arrêtent d'être connivants et paresseux.
Voilà. Ce débat, nous essayons aussi de le faire chaque jour, dans Le Temps de le dire, sur RCF. L'émission se poursuit dans deux minutes. Allez, à tout de suite.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire
presque, c'était Alain Souchon sur RCF.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
71% des Français n'ont pas le sentiment que les médias rendent mieux et davantage compte de leurs préoccupations. C'est ce que révèle le dernier baromètre de confiance dans les médias du journal La Croix. Nous en parlons avec son directeur Guillaume Goubert, avec Jacques Duplessis du collectif de presse Extramuros et avec Olivier Goujon, journaliste et photoreporter, auteur de l'enquête « Ces cons de journalistes » publiée aux éditions Max Milo. Depuis La Rochelle, c'est Nicole que nous avons la joie d'avoir en ligne. Nicole, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour tout le monde, oui. Bon, j'écoute, oui. Donc moi je suis d'accord avec la dame de Clermont et le dernier monsieur, là, l'avant-dernier, très véhément. Surtout en ce qui concerne les médias télé, je ne regarde plus les chaînes 1, 2, 3. La subjectivité des présentateurs et présentatrices, bizarrement toutes très jolies, hein, entre parenthèses, ça je le dis, est flagrante et toujours en faveur des puissants ou la bien-pensance ou la pensée unique. Alors, je regarde les flashs rapides à la télé, radio RCF, Culture, Canard, journal régional, et je fais ma synthèse. Beaucoup de journalistes TV, entre autres, sous-estiment l'esprit critique et le jugement des Français, abusivement jugés de populistes. Cette opinion est très répandue autour de moi. Quant aux fake news, n'est-ce pas aussi le cas de la rétention d'informations, c'est-à-dire mensonge par omission? Quand des journalistes TV et autres super bien payés critiquent les manifestants vivant avec de bas revenus, ils sont indécents et méprisants. Voilà. C'est dit.
Merci beaucoup pour ce témoignage, cette intervention assez forte, hein, Nicole. Merci beaucoup. Je fais ma synthèse, nous dit Nicole. Ça renvoie aussi à la responsabilité des citoyens, hein, Jacques.
Oui, alors effectivement, je crois que c'est un travail. S'informer, c'est un peu un travail. Il faut faire une synthèse. On peut pas s'informer avec un média unique. Et je crois que c'est ce que dit bien Nicole, et je crois que c'est intéressant. Et il y a un média qu'elle cite, c'est le média régional. Et moi, pour avoir travaillé 3 ans dans un journal régional, donc qui est Ouest France, en même temps qui est le premier quotidien de France, voilà, ce qui est quand même intéressant. Ce journal, paradoxalement, a des relations vraiment de proximité avec les gens, et les gens lui font vraiment confiance. Moi, j'ai été étonné des gens me disant « Ah, c'est vrai, parce que je l'ai lu dans Ouest France ».
Ils ont moins droit à l'erreur, finalement.
Moins droit à l'erreur, il y a une vraie confiance, et il y a une responsabilité. Moi, des fois, j'étais étonné en me disant « C'est vrai, on l'a lu dans Ouest France ». Oui, mais on peut se tromper. Enfin, voilà, et il y a des fois, ça, les journaux régionaux, quand ils sont de bonne qualité, ont plutôt la confiance de leurs lecteurs. Voilà.
Guillaume Goubert, sur l'importance des journaux régionaux pour être relais de l'information. Nous avons vécu il y a quelques temps, c'était il y a quelques jours, les journées Saint-François de Sales, hein, une rencontre des journalistes et communicants chrétiens autour justement de cette question de la proximité. Donc c'est essentiel, la proximité, mais ça peut être ambigu aussi.
Bah, c'est-à-dire que la proximité, je veux dire, il faut être à l'écoute du public, il faut être à l'écoute de son public pour essayer de répondre à son attente, mais ça ne veut pas forcément dire le caresser dans le sens du poil, pour prendre une expression un peu crue. Je veux dire, la raison d'être d'un journaliste, d'un média, c'est de faire réfléchir ses lecteurs ou ses auditeurs, c'est de leur permettre éventuellement d'enrichir leur compréhension des phénomènes qui sont complexes. Et là où le développement extrêmement rapide dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission des réseaux sociaux fait que qui créent des regroupements autour de communautés d'opinion. Or précisément si les médias peuvent rendre service, c'est de permettre une rencontre des opinions, une conversation publique, pas forcément un affrontement. Je veux dire, ça peut être, on peut faire, moi j'aime beaucoup l'idée de faire des constats de désaccord, c'est-à-dire essayer de voir sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. C'est ça qui peut faire avancer l'esprit public. Donc il faut être très attentif à ses lecteurs, parce que si on leur parle d'une manière qu'ils ne peuvent pas entendre, on fait pas notre boulot. Mais ça, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire aller forcément dans le sens de leurs opinions.
Olivier Goujon, une réaction, un commentaire avant d'accueillir un nouvel auditeur?
Monsieur, alors, je suis plutôt d'accord. Enfin, j'entends ce que dit Guillaume Goubert. Deux mots pour dire qu'elle a raison, cette dame. On sous-estime très largement l'intelligence des Français. On pense à leur place. Et ça, ça renvoie à la reproduction sociale. Ça renvoie à la connivence. Évidemment, ça renvoie aussi à la précarisation. J'y explique un peu dans le livre. Enfin, deux mots sur la PQR pour dire que pendant très longtemps... Alors, je situe dans mon livre le tournant sur l'affaire Doutreau, vers l'affaire Doutreau. Quand... Mais pendant très longtemps, la PQR était prescriptrice, c'est-à-dire que très clairement, la presse nationale s'informait sur la PQR. Et bon, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on précarise également les emplois de journalistes dans la PQR. Et donc... si elle a de moins en moins de possibilités de travailler, eh ben, comme une réaction en chaîne, si vous voulez, au-dessus, plus loin, la presse nationale qui continue de s'informer sur la PQR pâtit également de la baisse de qualité de l'information, oui, qu'il peut y avoir dans la PQR. Vous comprenez, c'est une réaction en chaîne, quoi. Et ça, c'est très dommageable. Ça renvoie à la précarisation, ça renvoie tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'emprise de la com, le primat d'urgence, l'infodivertissement, les lois scélérates. On n'a pas parlé des lois qui empêchent les journalistes de travailler. Enfin, toutes ces conditions-là qui s'appliquent également à la PQR.
Avant d'accueillir André, j'aimerais lire ce mail de Jean-Luc. Pour ma part, j'avoue que j'attends du journalisme, de la presse, surtout une information sobre, sans grand commentaire personnel du journaliste, mais vraiment rapporteur de l'actualité. Pour moi, mes deux modèles et ce que je suis le plus, ce sont les journaux de Radio Vatican comme source d'information sur le monde et pas nombrilo centré sur la France. Et d'autre part, l'émission Ça fait du bien, où on entend enfin des informations positives, des choses qui font du bien dans notre monde. Allez, André est avec nous de Grézieux. Bonjour André.
Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous faites. La place,
nous vous écoutons.
Moi, ma question, c'est la place du témoignage par rapport à l'impuissance ressentie devant l'avalanche et la nature de l'information que reçoit le client moyen. Ma question, c'est la place du témoignage de quelqu'un qui a changé de vie à cause de quelque chose auquel il croit. Voilà.
Oui, alors qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous voulez dire que vous souhaitez davantage de témoignages dans les journaux que vous lisez?
C'est-à-dire que dans la vie, c'est devant l'avalanche d'informations, même de très grande qualité, de la Croix par exemple, je vais directement au témoignage parce que ça me donne de quoi avancer. Ça me, par rapport à l'impuissance que je ressens devant toutes ces informations que je reçois, ben là, ça vient de quelqu'un, une personne, qui a vécu quelque chose d'important et qui peut m'aider à croire que je peux aussi vivre quelque chose d'important dans mon impuissance.
Merci beaucoup André, d'où l'importance, Guillaume Goubert, pour retraduire aussi ou prolonger les propos d'André, du récit. Les lecteurs sont attentifs à des récits.
Le récit et, je dirais, l'incarnation, ce qui est quelque chose d'important pour les chrétiens. C'est-à-dire, d'être pas trop polarisé sur les choses, mais de parler des personnes, des réalités personnelles, de ce qui est vécu. Alors c'est d'un maniement qui n'est pas toujours facile parce que il y a toujours le risque de à partir d'une personne de créer une généralisation abusive. Mais en même temps, c'est vrai, je rejoins ce que dit ce monsieur, c'est vrai que le témoignage est un registre majeur pour les médias.
Allez, au-delà du témoignage, même si vous pouvez réagir à cela. Si vous voulez, mais il nous reste moins de deux minutes, peut-être sous forme de conclusion, Jacques Duplessis, cette crise, cette défiance, vous pensez qu'elle peut avoir une solution?
Pour moi, la solution, c'est de mettre un maximum de journalistes sur le terrain, d'une part, et d'autre part, de réformer quand même ces médias qui ont été critiqués au niveau de la télévision, des chaînes d'infos continues, enfin BFM, CNews et tout ça, de réformer dans le sens de donner moins de place à des chroniqueurs tout puissants qui sauraient des choses sur tout. Voilà. Ça, je pense que... Et passer éventuellement avec des débats d'un niveau supérieur où on cherche pas la petite phrase, mais où il y a des gens qui viennent faire des apports parce qu'ils ont les vraies compétences.
Mmh. Olivier Goujon, est-ce que vous êtes pessimiste sur l'avenir du journalisme en France ?
Oui, je suis pessimiste. Après, c'est évident qu'il y a des pistes, mais je pense globalement que la solution est aussi politique, quoi, si vous voulez. On a clairement l'installation d'une idéologie néolibérale qui obère toute forme de développement sain de l'information. Il y a plus de 40 pays en Europe qui ont un conseil de déontologie. Nous, on n'en a pas, et celui qu'on nous laisse entrevoir est un leurre. Au niveau des solutions, ce que Jacques fait, c'est vraiment très bien aussi, se regrouper à plusieurs journalistes pour représenter une force face aux médias. Et puis encore au niveau des solutions, simplement appliquer la loi, par exemple, arrêter de payer des journalistes en auto-entrepreneurs, les payer le tarif normal, voire éventuellement par conviction décider de les payer plus, les laisser travailler dans de bonnes conditions, voilà. Et puis lutter contre la reproduction sociale et diversifier vraiment les métiers du journaliste. Il faut qu'on ait des journalistes qui représentent la société française.
Allez, on arrive au terme de cette émission, peut-être en 15 secondes, Guillaume Goubert. Une opportunité, cette crise, tout de même ?
Oui, bien sûr, et puis c'est aussi effectivement au public de réfléchir et de moins consommer ces médias qui les énervent pour certains d'entre eux autant. Je veux dire, ne regardons pas certaines chaînes, ne lisons pas certains journaux.
Allez, merci à tous, c'est la fin de cette émission. Vincent Bellotti, à votre service, c'est dans quelques secondes. Quel sera le thème aujourd'hui, Vincent ? Bonjour.
Oui, bonjour Antoine, excusez-moi, je discutais avec mon invité puisque nous allons parler aujourd'hui des problèmes de vue chez les enfants et notamment des lunettes. On peut en porter très tôt, même nourrisson. Alors comment savoir si votre enfant en a vraiment besoin ? Comment lui faire accepter ? Est-ce qu'il y a des modèles à privilégier ? On verra ça avec notre invité qui est opticien depuis bientôt 34 ans. À tout à l'heure.